Bonjour, 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 galériens, galériennes, auditrices et auditeurs de Livres et Amis. Eh bien, nous sommes le mercredi 22 octobre 2025. Le tonnerre a claqué fort ce matin sur Marseille, et puis, bon, puis s'est calmé quand même. Mais enfin, le tonnerre du matin, c'était bien parce que ça s'accordait avec notre lecture du jour et l'état du monde. Alors, je vous demande 20 secondes, je coupe mon téléphone que je n'avais pas coupé et je ne sais jamais, voilà, où est le mot d'avion, ça va finir par venir. Ça y est. Donc, nous sommes tranquilles, mon téléphone ne sonnera pas pendant l'émission et je reviens à vous. Alors, avant de vous parler donc du livre qu'on va lire, un petit coup d'œil sur nos cinémas préférés. Après les instants vidéo qui ont eu lieu le dernier week-end à la Friche, c'était vraiment super, il y a vraiment eu des trucs chouettes. Regardez encore le site parce qu'il y a à la DPEI, boulevard Camille Flammarion, encore une vidéo qui tourne. Et puis dans un autre lieu marseillais, encore une vidéo qui tourne. Et c'est certains jours en opposition les uns avec les autres. Donc regardez le site pour aller voir ces vidéos si vous avez encore envie. Toutes les deux très intéressantes. Et par ailleurs, pardon, je parlais de cinéma. Alors à la Baleine, encore Syrate, encore soundtrack pour un coup d'État, donc bande son pour un coup d'État. Et puis à partir de cette semaine, Imago d'un réalisateur. Alors je ne sais pas s'il est tchétchène ou ouzbek ou francisé. Enfin c'est justement c'est intéressant de savoir comment il se présente. Il s'appelle Denis Oumar Pitsaïev. Et son film, c'est justement sur le déracinement et le réenracinement là-bas, entre Tchétchénie et Géorgie, encore en guerre, pas tout à fait en guerre, mais en guerre en tout cas, entre tradition et innovation. Enfin, il y a plein de choses intéressantes dans le film, semble-t-il. Et puis au Gyptis, samedi 25, donc. Il y a deux projections de films de Amandine Gay en sa présence, avec débat. Le premier, c'est Vivre libre. Le deuxième, c'est Ouvrir la voie VOX, bien sûr. Donc, Amandine Gay et ce qu'elle a à dire précisément sur l'émigration et là encore, les déracinements et les enracinements. Alors, c'est le sujet principal donc de la journée en ce qui nous concerne. C'est donc un livre, ou plutôt le numéro un d'une revue qui s'appelle Comme nous brûlons. Comme nous brûlons, en référence, je dirais, à deux choses. D'abord, le collectif du festival Comme nous brûlons, qui s'est déroulé à Paris, d'abord Porte d'Aubervilliers, puis à la Gaîté Lyrique depuis plusieurs années. Et puis, vous savez, le livre qu'on avait lu ensemble, d'ailleurs, de Comme nous existons, de Kaoutar Archi. Donc, Comme nous brûlons, le collectif du festival avait dit que, en effet, il brûlait de désir et de colère, d'ardeur et de détermination. Ce Comme nous brûlons, là, la revue marseillaise, inéditée, comme ils disent, par des bénévole d'association marseillaise, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette revue ou cette volonté d'une revue de littérature contemporaine métèque, créée donc par un collectif de bénévoles venus de beaucoup d'horizons et en tout cas qui nous pousse à faire des lectures enflammées. Donc on va s'y atteler là toutes les deux, Françoise et moi, puisqu'aujourd'hui on est toutes les deux au micro. Je réajuste mon micro si ça fait un petit bruit. Voilà, il veut pas. Mais si ça fait un petit bruit, ne m'en voulez pas. Alors, comme nous brûlons. Numéro 1 d'une revue avec une introduction de Siem Ben Mira, qui est, on pourrait dire, l'éditeur ou la inéditrice principale de la revue, avec une édition co-signée de Nelly Slim. On avait lu aussi Entre ici et avant, il y a la mer de Nelly Slim. Donc, c'est un nom que vous connaissez comme celui de Kaoutar Archi. Et on retrouve avec elle d'autres noms, plus ou moins connus, mais en tout cas, des personnes venues d'ici ou d'ailleurs qui ont envie d'exprimer leur ressenti sur leur accueil ou non-accueil dans la société française. Et donc, un titre qui se revendique du métèque gaze, en référence bien sûr à ce qui avait été écrit auparavant sur le male gaze et sur le female gaze. Alors, petit retour en arrière. Le male gaze, l'expression proposée au départ par Laura Mulvey dans les années 1970-80, puis par Iris Bray, puis par Virginie Despentes en ce qui concerne donc le female gaze, c'est ce regard, donc ce regard différent, puisque le regard analysé par Laura Mulvey, c'était le male gaze, c'est-à-dire le regard masculin sur la femme en particulier, le regard ou plutôt la vision d'une société dans laquelle le mâle dominant impose justement les images et la vision des choses. Donc le male gaze, tant décrié bien sûr, c'est celui qui était dominant en particulier dans les arts, dans l'histoire des arts, dans le cinéma, dans les images de la femme de façon générale. Et donc quand Virginie Despentes d'abord et Iris Bray ensuite ont proposé le female gaze, c'était l'idée qu'il fallait ne plus supporter cette image masculine de la femme pour qui, ce mâle plutôt, au regard de qui la femme était un objet de désir, un objet de plaisir. Eh bien, le metec gaze sur ce modèle-là, c'est un peu ça. C'est une façon, entre guillemets, metec, de voir la société et de voir les choses, de ne plus supporter le regard dominant d'une société capitaliste, blanche, raciste, etc., etc. Donc, notre livre du jour, ou plutôt notre numéro 1 de notre revue du jour, commence par l'explicitation de ce metec gaze dans un texte qui est donc écrit, co-écrit, vous ai-je dit, par, je ne les trouve plus, mes deux autrices, ça y est, les voilà, Siem Benmina et Nelly Slim. Je vous lis. La revue « Comme nous brûlons » s'est construite comme espace de création, d'expérimentation et de respiration dans un paysage littéraire dominé par des voix blanches. En se réclamant d'un metec gaze, on a voulu s'autonomiser pour diffuser des récits où nous nous racontons, au lieu d'être racontés, des récits porteurs de nos mémoires et de nos savoirs à défendre. Nous partons du postulat que les personnes faisant partie d'une société, mais s'y sentant étrangères, sont peut-être les plus aptes à produire une critique de cette même société, de ses mythes et de ses chimères. Avec cette revue, nous désirons valoriser ces imaginaires dissidents en leur donnant un lieu où proliférer. Notre objectif n'est pas de prendre d'assaut le devant de la scène, mais plutôt de s'indépendantiser afin de bâtir la nôtre. Pour que nous, Métèque, exotisés, Xème génération, éternelle, mettez-vous toi, puissions diffuser nos textes au sein d'une structure éditoriale fièrement communautaire, une inédition. Pour tenter de se soustraire à une conception romantique de la reconnaissance littéraire, en ouvrant un espace collectif où se mêlent plumes aguerries et premiers gestes. Pour laisser de la place à des parcours qui ne soient pas uniquement littéraires, tant du côté de l'équipe éditoriale que de celui des écrivants-écrivantes. Enfin, pour que nos productions, généreuses en miel, en épices et parfois en acidité, n'encourent pas le risque de s'affadir pour satisfaire les goûts esthétiques d'un monde et d'une image du monde dominant. Au sein de notre collectif, nous sommes différents, différentes, que ce soit sur des axes structurels comme la classe, le genre, le validisme, les situations administratives, le colorisme. Nous sommes différents aussi par nos parcours, nos choix, nos visions du monde. On ne prétend donc pas porter une voix unique, mais au contraire construire, réunir des voix plurielles, éventuellement désaccordées. Comme nous brûlons, c'est un nous, peut-être encore un peu fumeux, mais un nous qui s'enflamme d'espoir et de fierté. Un nous qui brûle d'amour et de désir. C'est aussi un nous qui s'est formé dans une rage partagée, celle qui s'embrase dès que les médias salissent nos familles, nos histoires, notre dignité. Un nous qui chaque jour se consume de voir qu'en différents endroits du monde, des vies sont ravagées. Notre premier numéro, vous l'avez en main, ou vous l'avez dans les oreilles en ce qui nous concerne, notre premier numéro se place sous le signe du départ, les nôtres et ceux de nos ancêtres avant nous. Entre ces pages, on traverse des récits sur l'immigration, sur l'exil, sur la perte ou la dépossession, mais aussi sur les heures passées dans la voiture ou dans l'avion, sur les retours en été, en enfance, les souvenirs de lieux et de personnes qui façonnent nos identités. Dans la vie comme dans les livres, on trouve des tontons et des tatis, des grandes sœurs et des petits frères. En cas de doute, on cherche conseil auprès de ces figures. Et c'est ce que nous avons fait pour lancer ce projet. Alors, bienvenue, bienvenue S dans ce premier numéro de nos éditions Métec. On espère que notre sélection vous touchera et vous questionnera et vous donnera envie d'écrire à votre tour. Alors cette dernière expression, elle est très intéressante parce que c'est vrai qu'on trouve dans ce recueil donc, de textes un éventail de textes très variés. Et cet éventail de textes très variés, ben c'est, vous savez, ce qu'on trouve aussi dans les nouvelles que nous, sur Radio Galère, nous vous lisons en été souvent et puis à d'autres moments aussi. Des textes qui sont écrits par des personnes qui ne sont pas en effet des professionnels de l'écrit. Et l'écriture, la volonté d'écriture, c'est ce que beaucoup de personnes ressentent de plus en plus. Donc on aura l'occasion d'y revenir, je donnerai la parole dans d'autres émissions, à des personnes qui animent des ateliers d'écriture. Et ce numéro 1 de « Comme nous brûlons », bah c'est presque ça au fond, c'est presque un atelier d'écriture, puisque ce sont des personnes souvent écrivantes, plus qu'écrivaine, qui nous livre un certain nombre de textes. Mais on va revenir quand même à une écrivante écrivaine, Kaoutar Archi, et c'est Françoise qui va nous lire son texte.
L'écriture est une forme de vie, de la vie de la personne qui écrit. Bientôt, l'écriture prend le temps et le corps. Le travail devient incessant. L'écriture achevée appelle une écriture nouvelle, et cela jusqu'à parvenir à dire ce qui doit être dit, mais ne l'est parfois que difficilement, après avoir écrit et écrit. Pour certains, l'expérience de l'écriture s'arrête là, à l'écriture elle-même. Pour d'autres, l'expérience d'écrire, parce qu'elle est avant tout effort de se dire soi-même dans un monde qui nous dit tant de mensonges et de mal, s'alourdit de difficultés supplémentaires, car l'écriture n'est pas libre, l'écriture est contrainte. La contrainte dont il est question n'est pas celle de la personne qui écrit, déciderait librement de se donner, mais bien la contrainte qui pèse en premier et dernier lieu sur la dite personne. Écrire, ce n'est jamais simplement écrire. C'est toujours écrire dans un contexte tout fait de rapports sociaux de pouvoir. En ce sens, il pèse sur l'écriture et sur la personne qui écrit le poids de la société entière et de son passé. D'une certaine façon, il n'est pas une chose qui, dans la vie, nous éprouve, qui ne finira par devenir l'une des épreuves de l'écriture.
Et en fait, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, avant que Françoise ne commence, que ce petit texte s'appelle « Cherche encore, tu brûles ». et que évidemment, se cherche encore, tu brûles, c'est un jeu de mots sur notre titre, mais c'est aussi une référence à l'enfance, une référence au jeu. Donc, l'écriture en tant que jeu, l'écriture en tant que témoignage, Françoise va continuer à nous lire le texte de Kaoutar Archi, mais ce n'est pas indifférent de se dire que c'est à la fois, en effet, un ressenti et un jeu qui continue. Un peu comme l'analyse qu'elle fait de la difficulté d'écrire, ben oui, c'était aussi la difficulté qu'on ressentait en tant que personne dans une vie personnelle ou sociale qui, quelquefois, nous hérisse. Donc, cherche encore, tu brûles, on continue.
La race et l'expérience de racisation qu'il a produit frappent ce que nous sommes, ce que nous faisons, ainsi que la qualité de ce qui nous est concédé. La bonne santé, le bon travail, la bonne école, le bon diplôme, le bon logement sont difficiles à trouver. D'une certaine manière, je dirais que la bonne écriture est, elle aussi, cachée. Il faut lever en soi beaucoup de pierres et de roches pour espérer que sous elles, la bonne écriture se trouve. Ou peut-être faudrait-il dire l'écriture bonne. Car de la même manière que nous devons nous demander comment vivre, nous devons nous demander comment écrire. La bonne écriture est la mienne, celle qui me vient et qui sonne juste à mon cœur, qui me fait du bien. Je pourrais aussi dire, l'écriture bonne est celle qui fait le bien tout court. Ce pourrait être l'écriture éthique. Cette écriture bonne ou écriture éthique questionne la vie et cherche, pour plus de vie, à aller au-delà d'elle-même, car l'écriture, aussi bonne soit-elle, ne saurait suffire à tout défaire et à tout refaire du monde actuel. Il nous faudra toujours la révolution. L'écriture fausse, l'écriture non éthique, elle, ne pose pas la question de la vie dans le monde de maintenant ou ne la pose qu'en vue de la justifier afin que cette vie survive à toutes les autres vies possibles et meilleures. L'écriture bonne, nous ne saurons peut-être jamais si nous l'avons approchée, trouvée. À tout le moins, comme disent les enfants qui jouent, « Cherche encore, tu brûles !» Écrire depuis la race, depuis la classe, depuis le genre et les sexualités, écrire depuis le handicap, écrire depuis l'injustice alors que la justice est possible, c'est toujours pour moi écrire dans l'espoir qu'au sortir du texte, quelque chose aura changé, aura été transformé, réapproprié. C'est sûrement pour cela que je cherche l'écriture, parce que je cherche la solution. Une autre écriture existe, l'écriture de soi. Et je pourrais ajouter « des siens ». Ainsi, il m'a semblé que dire « je », qui revient toujours à dire « nous », serait une bonne manière de faire advenir la bonne écriture, et je l'espère, l'écriture bonne. Comme nous existons, je l'ai bien sûr écrit sous la contrainte. Je pourrais dire que la contrainte était partout. En plus de me demander comment je devais écrire, je me questionnais à propos de ce que je pouvais écrire. Jusqu'où écrire ? C'est une question que la grande majorité des écrivains ne se posera jamais. Ils iront tous en disant qu'ils sont libres d'écrire ce qu'ils veulent, que c'est là le principe même de leur position artiste, être autonome. Ils auraient raison. Et tout ce que ces écrivains occupant une position majoritaire écriraient serait de facto perçu sous l'angle de la littérarité et de l'universalité. Nous qui écrivons depuis la surconscience de ce qui est écrit sur nous, à travers les textes de loi, les articles de presse notamment, n'occupons pas une position artiste et ne sommes pas pleinement autonomes. La plupart du temps, nous naviguons à travers une mer d'hétéronomie et sommes privés de la considération de ce que nous faisons à la faveur de la déconsidération de ce que nous sommes. Nous dire, nous raconter, ne peut pleinement se réaliser qu'à condition que nous parvenions à critiquer les conditions de l'écriture elle-même. Pour cela, ma manière de faire a été jusqu'à présent de thématiser les conditions et les contraintes. Ou, pour le dire autrement, écrire à propos de l'écriture elle-même. C'est une forme de réappropriation de soi, pour ne pas dire de retrouvailles avec soi. Littérature et révolution, coécrit avec l'écrivain Joseph Andras, participe de ce mouvement.
Ça, c'est son dernier livre, hein. En effet, un livre à deux voix, Joseph Andras et Kaoutar Archi.
Comme nous brûlons, c'est un nous encore fumeux, un nous qui s'enflamme d'espoir et de fierté. lirez-vous dans l'édito. Je souhaite à toutes les personnes qui en ressentent le besoin de trouver dans ces pages à venir la forme, la ligne, l'histoire, la voix, la vérité recherchée.
Voilà, ce texte de Kaoutar Archi, donc Françoise vient de nous lire, c'est un peu un marrainage avec un titre, on l'a vu, en référence à l'enfance, en référence au jeu, mais un titre, enfin non pas un titre justement, mais un texte très sérieux, très analytique, vous vous en êtes rendu compte. Et c'est vrai que l'analyse de la situation de l'écrivain, l'analyse du lecteur aussi, c'est ce qui compte très souvent quand on prend un livre, quand on commence à lire. Bien sûr, c'est quelque chose à quoi on pense toujours. Et y a des livres qui sont peut-être écrits, je ne sais pas, d'une espèce de situation universelle, entre guillemets, les vieux romans policiers, etc. Mais ça se fait de moins en moins. Au fond, quand on a en livre, quand on a en main, pardon, un livre contemporain, très contemporain, on sait assez souvent d'où l'écrivain écrit. Et c'est aussi ce que disent bien des auteurs de cette revue, c'est qu'en prenant un livre, en commençant à lire, eh bien on sait d'où l'écrivain écrit. Alors d'où l'écrivain écrit, c'est ce que va nous dire dans un texte complètement différent, un texte poétique, Camille Shems-Bakali. Et justement, Camille Shems-Bakali, elle écrit un grand poème qui a pour titre « Shems ». Ma grand-mère comptait les lunes sur ses doigts, la couleur orange du henna que je confondais avec de la saleté sur ses doigts. 33 fois, elle disait « Allah Akbar », sa langue déjà un attentat de s'incliner à l'aube. Elle se levait pour prier, elle s'inclinait. Et l'arbre, lourd de sa fertilité, de ses fruits, moi qui avais 8 ans, moi qui étais blanche, je ne voyais qu'une vieille femme soumise à son hijab et à ses fables. Mes ancêtres, Chorfa, m'ont-ils vu me haïr en quelque sorte? Elle sentait le sucre, la menthe, quelquefois le beurre rance, ma grand-mère, comme elle sentait les navets bouillis, l'essence de rose, le savon, la peau de mouton séchée au soleil, la chaleur définitive sur le bitume souillé par l'huile de moteur. Elle sentait les brochettes d'agneau, l'incendie dans la cuisine, l'anis vert, l'amande, le citron confit, je ne sais pas, peut-être que j'invente. Oui, elle sentait cette chaleur définitive, cette chaleur de l'été, du bitume souillé par l'huile de moteur. J'avais 19 ans à son lit de mort, incapable de lui lire une sourate. Et pour moi, c'était l'heure de prendre la route, de reprendre mon prénom, signe de l'humiliation. J'en ai le monde rongé. Il est l'heure de prendre la route, debout, crachant votre grammaire. Vous voulez voir un tas de cendres? Je vous montre ma langue et le fond de mes amygdales. C'est un cimetière. Il est l'heure de prendre la route. Éclat de soleil sur le bitume. D'autres exilés persévèrent dans leurs adieux. C'est un message de braise. Mes frères étaient tous destinés à avoir les pieds comme des galets durcis et les joues rouillées. Mais moi, je ne pleure pas. Je me cherche un cœur de sang. Je me trouve un cœur de bitume refroidi. Il est l'heure de prendre la route. Si je me pique le bout des doigts au figuier barbare, le sang coulé me dotera peut-être d'un cœur. Nous nous dresserons en génération d'épines et de bras. Oui, je cherche un frère, une sœur, un peuple dans mes entrailles, une langue dans ma boîte épinière, une voiture blindée de bagages, celle de mon père quand j'étais enfant, en direction le soleil. Sur le bitume, je jette mon prénom, je reprends le sien, Shems. Je ne suis plus qu'un tas de nerfs en furie, je suis sans langue, sans Dieu, sans foi. Et je ne sais pas façonner une archa de semoule, je suis nu, libre et triste. Mais votre existence, mes frères, perfore l'oubli imposé. Il faut reprendre la route, il faut continuer la route. Mes ancêtres viennent manger ma langue. Je me désintègre, je mâche une sourate, je marche le temps volé. et le fantôme de ma grand-mère conspire à la chute de ce monde. Je me désintègre, elle se relève de ma désintégration. J'ai son endurance dans la chair, il faut continuer la route. Je me désintègre à ce monde qui l'a désintégré. Et les cadavres de nos frères nous imaginent un peuple. Nous deviendrons les temples du chaos. La grenade est un fruit, la grenade est une arme, et il nous reste encore une main de dignité et d'amour. Au paradis, ma grand-mère dresse la table. Alors, on va laisser la grand-mère. J'ai adoré ce poème, j'espère que vous aussi. La grand-mère dresse la table pour nous au paradis. Et notre jeune service civique que je vois là-bas de l'autre côté de la vitre et que j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure, Kania, c'est elle qui va nous passer notre musique. Et notre musique, ben, c'est Médine, 17 octobre. Le 17 octobre, je vous en avais parlé la semaine dernière, bien sûr. Et c'est un camarade retrouvé sur les marches de la gare Saint-Charles qui m'a dit que le 17 octobre, au soir, il y avait un concert de Médine. Alors, désolé, j'ai raté le concert de Médine, mais aujourd'hui, vous aurez 17 octobre avec Médine. Merci.
Alger capitale, au commencement des 60s, les pieds noirs quittent le navire, les colons terratisent. 1961, période estivale, c'est la guerre d'Algérie et son festival. Et son lot de discrimination, de torture, d'exaction, tout un ramassis d'or dur. Quelques degrés au nord de l'équateur, je quitte l'Algérie française, un pincement dans le cœur. Voici mon parcours, Ahmed, fils de Mohamed, gangréné du corps par la misère du Maghreb. Par les meurtres, les soirs de couvre-feu, par la peur du soldat français qui ouvre le feu. Ouvre les voiles, petit paquebot libérateur, emmène-moi au pays des enfants. Loin de l'inactivité peur algéroise, loin de ceux qui transforment nos mosquées en paroisses. Basilique de Notre-Dame d'Afrique s'éloigne de mon regard lorsque les mouchoirs s'agitent. Verse une larme dans la Méditerranée, une goutte d'eau dans la mer contient la peine de ma terre damnée. Acosta Marseille, port autonome, cité phocéenne, un étranger parmi les autochtones. Direction Saint-Charles, gare ferroviaire, embarquement, quai 7, voiture 6, wagon fourrière. Croise le regard des îlotiers, me foudroyant le cœur comme un tir de mortier. Reçois la flèche de la haine par les appelés du contingent. Des papiers, je suis français, mission l'agent. Chemin de fer, terminus, Paris, gare de Lyon, la métropole et son peuple par millions. Quelques dizaines de francs serrés dans un point, serviront de premier contact au café du coin. Moi qui cherchais de la chaleur, j'ai eu le sang glacé quand mes yeux rencontrèrent les leurs, couleur iceberg bleuté, bluffé par leur manque d'hospitalité. Ainsi sont-ils moralisateurs sans moralité. Démoralisé, je reprends le chemin, lequel me conduira dans les quartiers maghrébins. Nanterre, monticule de bidonville, habitation précaire pour mon entrée en vie civile.
Je ne laisserai pas les tueurs du FLN faire la loi dans Paris. À partir de maintenant, pour un coup reçu, vous en rendrez 10.
Ici, rien de bon pour les ratons, m'a dit le commissaire sanguinaire de mon canton. Après m'avoir uriné sur les mains, le gardien de la paix casse du cru au quotidien. 17e jour du mois d'octobre, le FLN a décidé de mettre fin à l'opprobre. En effet, le journal de la veille titré, couvre-feu recommandé pour les immigrés. Non, la réaction ne s'est pas faite attendre. Algériens de France dans les rues, nous allons descendre. Protester contre leurs lois discriminatoires, investissons leurs ponts et leurs centres giratoires. Embarqués dans un cortège pacifique, nous réclamons justice pour nos droits civiques. Mais la police ne l'entend pas de cette oreille. En cette période, nous sommes un tas de rares rebelles. Marchons en direction du pont Saint-Michel. Nous verrons bien quelle sera l'issue de cette querelle. Une fois sur la berge, j'aperçois le comité d'accueil qui souhaite faire de ce pont notre cercueil. Les camps s'observent et se dévisagent. Un silence de mort s'installe entre les deux rivages. Puis une voix se lève, scande à bas le couvre-feu et ouvre le feu. La première ligne s'écroule et commence la
chasse à l'homme. Je prends mes jambes à mon cou comme un pur sang. Je galope, mais le pont est cerné. Nous sommes bernés dans une prison sur pilotis. Nous sommes enfermés, pas une, pas deux, mais une dizaine de matraques viennent me défoncer le crâne et mes os craquent sous mon anorak. Ma bouche s'éclate bien sur les trottoirs. Leur bouche s'esclave bien grande de nous voir. Nous allons voir si les rats savent nager. Au fond de la Seine, vous ne pourrez plus vous venger. Inconscient, gisant dans mon propre sang, les brigadiers en chef par tous les membres me saisissant. Amorce ma descente, là où passent les péniches. S'assure de ma mort, frappant ma tête sur la corniche. Je tombe comme un déchet au vide d'ordure. Dans la chute, violemment, ma nuque a touché la bordure. Liquide, poignardant tous mes orifices. Le fleuve glacial, un bûcher chaud pour mon sacrifice. Monsieur Papon a jugé bon de nous noyer. Aucun pompier pour étouffer le foyer. On n'éteint pas des braises avec un verre de gasoil. Sans penser aux tirailleurs et combattants soifs. Mon cadavre, emporté par le courant, sera repêché dans les environs de Rouen. D'étranges nénuphars flottent sur la Seine. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la Seine. Des cas des eaux pour les gens des humains eaux. Déshumanisés, les basanés ne font pas de vieux os. D'étranges nénuphars flottent sur la Seine. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la Seine. Un saut de piste dans lequel on noie des rats. Octobre noir, ratonnade sous les boulevards. Ici, rien de bon pour les ratons, m'a dit le commissaire Maurice Papon. 4 mois plus tard, on ratonne à Charonne. Les crouilles et les cocos qui aident les bougnoules. 132 ans d'occupation française ont servi à remplacer nos cœurs par des braises. Algérie, en vert et blanc, étoile et croissant. Devoir de mémoire grandissant, Djezaïr.
À 20h45.
Ouais, salut Médine, c'était Mélanie, Diams. Bah écoute, je t'appelais parce que je suis allé sur le forum du CSA, comme tu m'as dit, au sujet de ton album.
Merci, merci pour la musique de Médine, merci pour 17 octobre 1961. Oui, Médine, il fait le rapport justement entre le 17 octobre 61 et le 8 février 1962, les morts de Charonne. Donc, il associe les manifestants algériens et français, bien sûr, les manifestants français qui justement... ceux du Parti communiste ou de la CGT défendaient à l'époque la paix en Algérie. Alors, la paix en Algérie, la paix pour les migrants, c'est aussi ce qu'on pourrait revendiquer et ce qu'on continue à revendiquer et ce que nos textes de notre revue d'aujourd'hui, comme Nous brûlons, revendiquent précisément, puisqu'elles revendiquent une place pour les migrants ou les immigrés de toutes les générations. Alors, on va continuer avec un texte un petit peu différent, un texte que Françoise va nous lire, qui est le texte d'un migrant qui vient du Japon. Bah oui, il y a aussi des gens établis en France qui viennent finalement de beaucoup plus loin que le bassin méditerranéen ou que le Moyen-Orient. Et ce texte de Alexandre Takuya Kato, ce texte donc est celui d'un jeune japonais installé en France, mais repartant pour une visite au Japon. Et il est afu. Afu, ben, c'est un mot japonais, certes, mais dérivé de l'anglais, vous savez, le half anglais qui veut dire moitié. Alors, au Japon, les afu, ben, ce sont ceux qui sont encore moitié japonais, mais déjà un peu moitié d'ailleurs, ou le contraire, moitié d'ailleurs et encore moitié japonais. Donc, voilà, c'est ce que nous dit Alexandre à travers un récit d'un retour au Japon. Et il parle par visio à une amie française, mais il lui parle de son retour au Japon.
J'aime faire une visio avec toi quand je conduis. Je place le téléphone dans son support et je lance l'appel. Quand tu décroches, tu vois le volant au premier plan et puis mon visage juste derrière. C'est plus facile d'engager ici la conversation que depuis mon appart. Tu vas où ? C'est plus léger comme question que « comment ça va ?». Souvent, je t'appelle quand j'ai du temps devant moi, au cours d'un long trajet. Je passe par une route simple, l'autoroute ou la nationale, ou familière. Quand l'un de nous est occupé, la conversation n'est pas très dynamique, mais ça passe le temps. Il faut aussi que ça capte suffisamment. Parfois, au bout de quelques minutes, les interférences rendent la conversation impossible. J'aurais voulu t'écouter plus longtemps. J'aurais voulu qu'on fasse un peu plus de route ensemble. C'est ma manière de t'emmener avec moi quand on habite si loin l'un de l'autre. Aujourd'hui, je traverse les montagnes et ça coupe trop pour la visio. Je m'en doutais. Ça t'agace vite, ce que je comprends. Le temps perdu derrière le volant a une qualité qu'il n'a nulle part ailleurs. Après un dernier au revoir de la main que tu n'as sûrement pas reçu, je relance la radio et navigue entre les FM sans comprendre cette langue si familière. Les filtres compressant les voix, leur rythme et les rires de fond donnent quelques informations sur le genre de l'émission. Au moins, je ne suis jamais choquée comme je peux l'être chez moi quand j'entends des dingueries sur les ondes. Je retrouve ici l'inconscience de pouvoir trouver tout acceptable, pouvoir tout choisir sans limite. Il y a sûrement quelques avantages à comprendre imparfaitement la langue de nos ancêtres. Mais toi, tu la comprends. Et depuis que tu l'as apprise, j'ai l'impression d'être encore plus distant de mon propre corps. La seule chose que j'ai eu le temps de te dire, c'est où je vais. Chez une amie rencontrée il y a peu. Elle est à fou, comme nous. Avec les prunes de son jardin, elle fait aussi loup mes choux.
Alors, à fou, on l'a vu, c'est le moitié-moitié. Et loup mes choux, c'est un alcool japonais traditionnel. Donc, cette pas très japonaise, eh ben, elle fait quand même l'alcool de prune japonais.
Qui est moins sucré que celui de chez Tonton. Dans le sien, elle ajoute du coin, ce qui lui donne un goût raffiné. Elle conserve les bocaux au couvercle rouge sous une trappe dans sa cuisine. Et je repense à la maison de notre oncle, à ce soir du nouvel an où tu t'es endormie alcoolisée sur le plancher. Quand on s'est rencontrés, elle et moi, on a facilement échangé nos histoires. On a constaté des similitudes. Peu de choses ont réellement changé avec le temps. Elle a 30 ans de plus et pourtant on porte les mêmes blessures, on entend les mêmes remarques. Elle m'a confié qu'elle avait peur.
Peur? I'm afraid of thinking they are stupid. I'm afraid I'll become arrogant if I keep thinking they are stupid. J'ai peur de penser tout le temps qu'ils sont vraiment stupides. J'ai peur d'avoir ce regard dominant quand je continue à penser qu'ils sont stupides. Eh oui, c'est ça. En entendant ces mots, bah, j'ai compris que moi, je ressentais la même chose, la barrière qui continue.
Elle et moi, on convoque des mythologies sœurs, des mythologies à moitié. Elles ne sont pas incomplètes pour autant. On investit l'absence comme une matière. Elle a choisi de vivre ici, tandis que je reviens quand je peux. Elle habite au nord-est dans une vallée voisine. Avec la limitation à 40 et les virages en épingle, le temps s'étire. La petite voiture à boîte automatique faiblit dans les montées. Elle fait autant de bruit que les motos qui rayent la nuit et font trembler les vitres de ma chambre à Marseille, mais je franchis le col à 20 max. Quand la route passe sous la montagne, même la radio se tait, et je repense à notre peur, celle qui est désormais partagée. À mon arrivée, elle est simplement montée dans la voiture avant que je puisse en descendre. Elle veut me guider jusqu'au Mugongkong.
Oui, le Mugongkong, c'est en fait ce qui s'appelle le musée du silence en japonais. Il est situé à Ueda, dans la préfecture de Nagano.
On fait quelques kilomètres jusqu'à la vallée. On la traverse en passant entre les rizières et les maisons d'une petite ville, puis on grimpe sur une colline à travers la forêt. De part et d'autre de la route, un vert vif et humide, celui de l'été après les typhons. Par moments, on aperçoit les montagnes en arrière-plan, par-dessus les arbres. Dans ce musée, il n'y a que des peintures et des lettres de jeunes artistes morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Leurs œuvres sont très peu restaurées. On lit sur elles la détérioration, le passage du temps et le risque de l'oubli. Faire mémoire, c'est parfois ambigu. C'est sur une base commune qu'on choisit de la laisser abîmée ou de la réparer.
Donc, histoire de mémoire, histoire d'histoire, histoire de passé, histoire de retour. Ce texte est vraiment pluriel et si le musée japonais auquel il fait allusion s'appelle le musée du silence, c'est précisément peut-être pour rompre le silence que nos auteurs d'aujourd'hui ont pris la parole ou ont pris la plume. Alors, on va continuer avec un texte d'une autre écrivaine que nous avons déjà lu, on l'a dit, c'est Nelly Slim, qui s'appelle justement « Revenir ». J'ai peur de revenir là où je suis née. Une heure avant de prendre la navette pour l'aéroport, l'angoisse me saisit. Je ne sais plus quelle sera la couleur du ciel quand les rues deviennent noires et si les trottoirs sont toujours les mêmes, remplis parfois de piles de détritus ou couverts de poussière que la pluie a ramenées avec elle ou quand elle est tombée ou quand elle les a nettoyées. Je finis ma valise à la hâte, je suis en retard. Je sais certaines choses. Par exemple, je sais les grands cactus qui se dressent et les taxis jaunes et enfumés, les beignets recouverts de sucre et le pop-corn vendu chaud sur la corniche. Je sais le visage de mes amis d'enfance et le vieux cinéma du coin de la rue qui ne diffuse que des films vraiment datés, mais pas assez vieux pour être vintage. Je sais les quelques marches qui séparent l'entrée de la cuisine dans la maison de ma tante. La télé toujours allumée. Je les connais comme des images figées dans le temps, des scènes que ma mémoire cultive, mais qui ont perdu la mobilité des choses vivantes. J'ai entendu une phrase dans une bouche sœur il n'y a pas très longtemps. « Alger, tu ne m'as pas attendu pour changer. » Et cette phrase entendue, j'ai pensé que j'aurais pu en dire la même chose. J'aurais pu dire ça de Tunis. Tunis, tu ne m'as pas attendu pour changer. J'ai de plus en plus mal à penser à Tunis. On m'en parle et je détourne le regard, honteuse d'admettre que je ne consulte plus l'actualité. Je ne suis plus au courant de rien. Je me complais dans une enfance romancée tandis que mon pays se déchire. Quand il devient impossible de m'adresser à elle, la ville de Tunis, de lui dire un tu absurde et grotesque, je prends l'habitude de parler en monologue. Un monologue usé jusqu'à la corde fait des mêmes questions inlassables et de réponses parcellaires. Comment revenir ? Mes souvenirs suspendus dans la raideur des cartes postales, je compte avec effroi les années qui me séparent de mon arrivée en France. 15 ans. 15 ans à me tenir droite et à apprendre le pointu à la fin des mots. 15 années à effacer les phrases qui traînent pour devenir rapide, efficace, productive. Et dans 2 ans, j'aurai passé autant de temps ici qu'avec elle, là-bas, qu'avec toi. Je sais ce que tu vas me dire, je t'ai quitté. J'ai voulu autre chose, je me suis lassée, je t'ai couverte de reproches. Prête à tout donner pour un bout d'Occident, pour une promesse de succès. Toi et moi, ce n'était pas long terme, pas durable. L'avenir n'était pas ici, tout le monde le sait. J'ai laissé derrière moi ce que je connaissais, tes mots lents pour la langue rêche, pour leur rue tiède, pour être qui je veux, comme à la télé. Pourquoi est-ce que je reviens ailleurs ? Alors, je ne vais pas me plaindre maintenant. Plus à ma place, trop française, trop intégrée. La peur me suit jusqu'au contrôle à l'aéroport, jusque dans l'habitacle de l'avion. Je le prends pour aller te voir, tu sais. Je te dirai « Bonjour, Aslem, la baisse, ça va comment ?»« Je sais, ça fait longtemps, tu m'as attendu, je t'ai ignoré. Est-ce que tu m'en veux ?» Mais je ne crois pas que Tunis m'en veuille. Au fond, il n'y a que moi que la culpabilité tourmente. Elle m'accueille, égale à elle-même, piquante comme les poivrons de la salade meshouya, généreuse comme l'ami de ma mère qui vient me chercher à l'aéroport et me coince sous le bras une boîte de gâteaux. Et un manteau, au cas où tu as froid, tu sais, on sait jamais. Allez, allez, viens, prends. T'as changé, je te murmure, impressionnée depuis la fenêtre du taxi commandé en hâte. Moi qui n'avais connu que le jaune enfumé, ailé à bout de bras. Maintenant, il y a les commandes sur Internet, il y a les sushis dans les boîtes en plastique au supermarché, les galeries d'art pullulent à la Marsa et les gens parlent français dans la rue. le café où j'allais avec mes copines a fermé. Mais la vérité, c'est qu'au bout de 2 jours, mon corps se fond dans celui des autres. Je suis une Tunisienne comme il y en a plein, une Tunisienne avec un petit bout de France. J'ai le passeport rouge grenat et 15 ans de vie ailleurs, le privilège de traverser les frontières et les mots qui s'échappent, mais l'aplomb intact quand il s'agit de prendre ma place dans la ville. Il y a une partie de moi coincée entre un avion et une mer, à 1h30 de vol, à 1h30 de vol seulement. Elle restera coincée là, je m'y suis résolue. C'est drôle, cette manière qu'a la géographie de me rendre irréconciliable. Pas si drôle, cette manière qu'a l'histoire coloniale de me rendre irréconciliable. Je ne suis pas seule. Nous sommes presque 2 millions de Tunisiens partis vivre à l'étranger. Sur 12 millions d'habitants, ça en fait des, comme moi, qui ont trahi le pays et qui, au manque d'emploi et à l'inflation, ont préféré l'opulence sélective et le racisme rance de l'Occident. Nous revenons te rendre visite pour te dire que nous ne t'avons pas oublié. Nous te ramenons des cadeaux, nous posons des congés et nous nous demandons inlassablement de quelle couleur sera le ciel et si les trottoirs sont toujours les mêmes. Nous continuerons à tenter de créer des ponts entre ici et là-bas, entre là-bas et ici, à emprunter les mêmes routes créées par les colons en tentant de les resignifier. Être deux veut dire que j'ai toujours un endroit où aller et quelque part un endroit qui me manque. Bonjour Tunis. Au revoir Tunis. Il est joli, il est poétique, il est amoureux, bien sûr, ce rendez-vous avec Tunis. Et le texte de Nelly Slim est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Et puis on va peut-être terminer sur un petit jeu qui est en fait un test. Et un test qu'une écrivaine, Fatou S., qui n'a pas voulu donc donner véritablement son nom, Fatou S., elle a écrit un petit test, donc, dit-elle et disons-nous, pour voir aussi comment on évalue le retour, l'attachement, le détachement, etc.
Psychotest ou QCM ? Tu es né en France et qu'on te demande « tu viens d'où ?» Tu as entre 35 et 40 ans et que tu décides de fabriquer un enfant à la campagne. Tu es né quelque part en Occident. Tu ne connais pas le pays de tes grands-parents. Tu es né quelque part sur le continent africain ou dans les Caraïbes. Ta famille d'origine nucléaire diffère de ta famille et tes camarades militants.
Alors à côté de chaque phrase, bien sûr, une petite case qu'il faudrait cocher ou pas.
Ta texture de cheveux fait crisser les coiffeurs de cheveux lisses et raides. Tu sors de l'hétéronormativité. Ton langage, tes codes, puisent leur histoire en banlieue parisienne. Tu relationnes amoureusement avec une personne blanche en sachant que ça ne fonctionnera pas en mode rythme de croisière. Une de tes langues maternelles se parle dans ton quotidien. Tu prends des risques à beaucoup d'endroits, de travail, les amitiés, la famille choisie. Ton corps et tes fringues se situent à partir de 42. Tu parles et qu'on t'écoute rarement. Tes cheveux sont crépus. Tu es noir. La charge raciale, nommée par Maboula Sourma Oro, t'a permis de comprendre beaucoup de choses et de gagner du temps. T'apprends à ne plus avoir d'attente pour ne plus être déçu. Ton nouveau charisme pourrait te faire dire n'importe quoi qui serait validé. Chaud. Tu adores manger. Tu détestes faire la vaisselle. D'ailleurs, le lave-vaisselle est une merveilleuse invention. Tu t'adaptes, mais jamais à n'importe quel prix. Toi aussi, des personnes de ton entourage veulent te sauver. Un de tes parents ne savait ni lire ni écrire. Tu es nul en réseaux sociaux. La négrophobie à Marseille te sèche. Mais quand elle vient de personnes qui subissent le racisme. Tu n'aimes pas lire. Le retour de Valls au gouvernement te donne la nausée. Tes carnets, la trace de tes seums.
Le gouvernement français et ses décisions te font vomir. Autour de toi, au moins une personne de ta famille compte sur ta thune pour vivre, se loger ou manger. Tu adores écouter la radio, même si les nouvelles te dépriment, t'es vénère. Tu as déjà entendu « Imaginez pas les merveilles que nous sommes sous le tas de merde ». Merci Joël Sambi.
On continue, il y a encore quelques petites phrases de QCM.
La vie te propose tout sauf du répit. On dit de toi que tu parles trop fort, tu prends trop de place. Tu fus ado dans les années 90. Tu te demandes pourquoi, quand les guerres coloniales et révoltes concernent des personnes noires, médias et groupes d'extrême gauche en parlent beaucoup moins. Tu organises tes écrits comme tu organises ton agenda. Ton agenda est encore en mode papier. Boumeuse, ouais, ouais. Tu aimes la sape et les bijoux. Tu distribues des baffes quand on te touche les cheveux sans te demander. Tu sais dealer avec la mort, les rituels, les fantômes. Ton espace, maison, refuge ressemble souvent à l'état intérieur de ton cerveau. Tu subis du harcèlement au travail à cause de ta race. Tu fus Annie Mancolo pour 25, 35 ou 45 euros par jour. Chaud, non? Tu adores prendre le train. Tu gardes les cartes postales, les lettres reçues dans les boîtes. Ta force de travail, une des seules choses que tu possèdes. Tu recopies les SMS d'amour et de soutien dans un petit carnet. Tu détestes qu'on entre dans ta vie par effraction. L'enfant que t'accompagne t'a déjà vu pleurer. Tu es certain de tes choix. Dans ta fratrie, les frères galèrent plus que les sœurs. Tu doutes souvent. Tu es de gauche. C'est quoi la gauche? Tu n'hériteras de rien financièrement. Tu es forte et vulnérable. Tu es plutôt romance collective. Toi aussi, tu revendiques de la fragilité contre l'injonction à être puissante. Tu adores lire. Tu admires, à juste titre, quelque part, les nôtres qui laissent des traces, films, écrits, émissions de radio, etc. Tu portes en toi une maladie auto-immune. Tu te demandes comment la révolution se fera collective si le burn-out est collectif. Tu aimes, tu lâches, tu attrapes.
Tu aimes, tu lâches, tu attrapes, avec chaque fois une petite case à cocher. Alors, bien sûr, c'est complètement personnel, cette liste de QCM, cette espèce de psychotest, en effet, destinée, à ceux qui viennent d'ailleurs, à ceux qui viennent d'ici, peu importe. Il y a des tas de petites phrases auxquelles on peut répondre, comment on peut répondre. Et après toutes ces petites phrases de test, Fatou nous donne quand même un petit texte, lui, écrit et relié. Des tresses, des cheveux frisés, des afros. Il y a les grandes gueules qui disent tout haut ce qu'on ne devrait pas penser tout bas. Des excuses et de la reconnaissance, de l'intemporel et du présent, de la vie, du papier, des carnets, des sacs remplis de stylos, de chewing-gum, téléphone, dictaphone, bleu à lèvres, vernis à ongles. Et puis des silences nombreux, des dénis jetés par les fenêtres. Celles et ceux qui portent, celles et ceux qui ont la place d'avoir de la force ou de ne plus avoir de force. Les bruits et les odeurs, les en place, les déplacés, les alliés. Nos valises, nos tissus, nos bijoux. Il y a les réflexions et nos pensées. Les légitimités, la fatigue, l'épuisement, le découragement. Les aïeuls de bons conseils. Et les plus jeunes, qui se moquent de nos vieilleries déjà. Le langage codé, le langage nommé, la façade et le fond. Des soninké, des bambara, des malinké, des Français de la France colonisatrice et taiseuse, et aussi d'autres de toutes les créolités. Du mafé, du tiède, du curry, des bouillons et de la pizza. La grande BM, les règles du jeu, le sérieux, l'absurde et le calme, l'insolence, le soutien, l'écoute et se défendre, quoi qu'il en soit. La charge mentale du quotidien, les peines, les rires, les déceptions et surtout l'endurance. Des tips, des trucs, des astuces, nos recettes, des sauces cuites pendant des heures et mijotées à point, des cocktails à verser dans les armes et des couteaux affûtés, des langues aiguisées, troquées contre nos larmes desséchées. Alors oui, les langues aiguisées, c'est sûr, les langues aiguisées, c'est ce qui caractérise Fatou. Et c'est ce qui fait aussi que dans toutes ces petites phrases, pensées et dites avec une langue aiguisée, eh bien, on retrouve beaucoup de choses de partout. Fatou, manifestement, elle a vécu ici et ailleurs avec bien d'autres, bien des gens qui, quelque part, sont aussi ses frères, ses sœurs, ou comme on disait tout à l'heure, ses tontons, ses tatis. Alors, oui, Fatou, elle est ici un de ces éléments de la population marseillaise, un de ces éléments qui refuse l'ailleurs ou qui refuse justement l'ici. Et pour finir, et avant de vous quitter, un tout petit bout de poème, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, de Sarah Rima, qui a appelé ça « Poème sauce algérienne ». Ça commence par un mot, Yema. Yema, en arabe, ça veut dire mère et par extension, quelquefois, grand-mère. Et c'est une fille qui écrit ce poème. Yema me disait que j'étais un garçon manqué. J'aurais dû naître Mohamed, Ali ou Hamed, être un homme, un vrai. Un qui se lève après sa dernière bouchée, qui tue l'ennui en bas de la cité, qui tient le mur, comme il handle ses virilités, qui court après l'amour et ses souffles de colère. Un homme moustachu qui pleure de colère quand on touche à la vertu de sa mère. Mais dans mon bled, il y avait le club Dorothée, le spleen de Baudelaire. Je chantais l'amour avec Asni, Céline Dion et Khaled. Aïcha, c'était pas juste sur les ondes, mais aussi l'un de mes crushs. Et à ce petit bled, oui, je rêvais d'être DiCaprio, de sauver Juliette, de m'enfuir avec Rose, de porter des chemises à fleurs. Eh oui, viens voir, la romance, l'amour, sauce algérienne. Tu sais, on s'ennuie sous les bougainvillées. Les macnines ont cessé de chanter et le bled est ravagé. Le Sahara grignote nos plaines abandonnées. Il y a les déracinés en fuite, le terreau asséché, la poussière engloutie dans nos récits. Il y a du silence sur nos ondes. Alors j'aimerais dire « je t'aime » dans ma langue maternelle, comme Yema le faisait, avec des baklava au miel et un silence plein de pudeur. Alors sur les ondes, non pas avec silence, mais avec des mots, ben, on se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres écrits colorés, j'espère, et toujours de braise, bien sûr. À bientôt.
Les histoires du mercredi midi,
réalisées